avec, paragraphe 2, les pères de la deuxième moitié du IVe siècle. Alors, ces pères-là, c'est la grande époque de la patristique. Alors, j'ose pas dire ce sont les grands-pères, mais c'est... Et alors, ce sont ces pères qui vont donner les stoccades finales à l'arianisme. Alors, on les appelle les Cappadociens, pour certains, ça sera grand A, parce qu'ils vivaient justement en Cappadoce. Alors je commence... je vais peut-être pas commencer parce que Saint Basile de Césarée, en fait, il prend beaucoup d'espace. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais vous distribuer des feuilles... Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Merci. Alors, je sais pas, j'en ai demandé 25. Je sais pas si elle en a fait autant. Alors, j'en profite quand même pour dire deux, trois mots.
Oui, c'est lourd.
La dame. Alors, la dame.
Alors, si Athanase, ça veut dire immortel, Basile, ça veut dire royal, en fait. Hein.
Basileus.
Le Basileus.
Oui. Ça donnera Vassili chez les Russes, par exemple. Hein, parce que, eux, le B et le V, c'est comme les Espagnols. Hein, ça. On m'avait fait d'ailleurs un jeu de mots avec le. Avec l'Espagne, Félix Hispania.
Nubé.
Ah oui. Mais là, c'est Félix Hispania. Ubi. Ah oui, Ubi vivere est bibere. Parce que comme les Espagnols. Les Espagnols sont incapables de distinguer le V et le B. Alors du coup, c'est...
Mais c'est un glissement dans beaucoup de langues.
Voilà. Oui, oui. Alors, Félix Hispania, ubi vivere est bibere. Ubi vivere est bibere. Parce que le V et le B, bibere et bibere. Voilà. Alors, Basile était issu d'une famille de la haute aristocratie, autrefois souveraine d'ailleurs. Ses ancêtres étaient des princes indépendants et qui, avec l'extension de l'Empire, ont été intégrés dans la noblesse sénatoriale. Vous savez, la noblesse sénatoriale au-dessus de la noblesse équestre. Et c'était une famille qui était devenue chrétienne depuis la fin du IIIe siècle. Ils avaient dû d'ailleurs souffrir puisque leurs biens avaient été confisqués, la famille avait été persécutée. Si bien que Basile et ses frères et sœurs, au total ils étaient 10, ont été élevés dans un climat d'héroïsme qui n'avait rien à voir avec l'opportunisme qui suivit le tournant constantinien. Donc il naît en 330, mais vous voyez, dans une tradition familiale où on pouvait montrer les coups reçus pour la défense de la foi. Et parmi ses trois frères et ses six sœurs, il y a Saint Grégoire de Nice, qui est certainement le platonicien chrétien le plus brillant. Son jeune frère, qui était beaucoup moins pastoral et beaucoup plus intellectuel. Saint Pierre de Sébaste, le plus jeune frère, donc qui deviendra aussi évêque. Sainte Macrine la Jeune, abbesse, parce qu'il y avait Sainte Macrine la Vieille, qui était la grand-mère, qui était aussi abbesse. Et il y avait aussi un frère encore plus jeune qui est mort prématurément, ermite. Donc vous voyez, c'était une famille. C'est une famille où ils étaient, tous les garçons étaient moines, dont trois évêques. Et puis, les filles étaient, la moitié des filles étaient moniales.
Pour la descendance.
Ça, c'est autre chose.
Oui.
Ils ne connaissaient pas le grand remplacement à l'époque. Non.
Alors, mais ils n'y étaient pas encore là. Alors, Basile fait ses études à Césarée de Cappadoce, donc la Césarée d'où il tire son nom, à Constantinople, capitale impériale, et à Athènes, qui demeurait la capitale intellectuelle de tout l'Empire. Et là, il se lie à Grégoire de Nazianze, qui va propulser évêque et dont il va faire aussi un des artisans de la résistance contre l'arianisme. Et alors justement, je crois que je vous ai mis un... Ben voilà, on va finir, on pourrait lire le texte de cette rencontre. Voilà. Grégoire de Nazianze va survivre à Basile. Il va même animer le concile de Constantinople. Un petit peu comme un lait que lui a confié Basile. Et alors voilà ce qu'il raconte. Nous étions ensemble à Athènes, comme le courant d'un fleuve à partir d'une source unique se divise en plusieurs bras. Basile et moi, nous nous étions séparés pour aller chercher le savoir dans des régions différentes. Mais nous nous sommes retrouvés comme à la suite d'un rendez-vous, alors que c'était Dieu qui nous menait. Non seulement je portais personnellement à mon grand Basile beaucoup de respect, parce que je voyais en lui une conduite sérieuse et une parole avisée, mais j'essayais aussi d'inspirer le même sentiment aux autres qui n'avaient pas eu l'occasion de le connaître. Car pour beaucoup, il était déjà digne de vénération parce que sa réputation l'avait devancé. Le résultat de cela, c'est qu'il fut à peu près le seul de tous ceux qui venaient à étudier à Athènes qui échappa à la loi commune en jouissant d'une estime supérieure à celle qui revient à un nouveau venu. Ce fut le début de notre amitié. De là est née l'étincelle qui nous a unis. C'est ainsi que nous avons reçu la blessure de notre amitié mutuelle. Au bout d'un certain temps, nous nous étions avoués notre passion commune, à savoir que nous n'avions d'ardeur que pour la philosophie. Alors nous fûmes tout l'un pour l'autre, ayant même toit, même table, même vie, même horizon, unissant chaque jour notre commun désir avec plus de chaleur et plus de force. Nous étions conduits par les mêmes espérances envers la richesse la plus enviée, la science. Mais il y avait entre nous aucune envie, nous ne cherchions que l'émulation. Il y avait lutte entre nous deux, non pas qui obtiendrait la première place, mais comment chacun la céderait à l'autre. Car chacun considérait l'éloge obtenu par l'autre comme étant le sien. On aurait cru que nous avions à nous deux une seule âme, responsable de deux corps. Et s'il ne faut pas croire ceux qui prétendent que tout est dans tout, et réciproquement probablement, il faut nous croire quand nous disons que nous étions l'un dans l'autre et l'un auprès de l'autre. Nous n'avions tous deux qu'une seule affaire, la vertu, et notre vie était dirigée vers les espérances futures pour nous préparer à quitter ce monde en y renonçant déjà. C'est dans cette perspective que nous organisions toute notre vie et notre manière de faire. Nous nous laissions conduire par la loi de Dieu, en nous excitant mutuellement à l'amour de la vertu. Et si ce n'est pas trop me vanter que de le dire, chacun de nous était pour l'autre une règle et un modèle permanent de distinguer le bien et le mal. Chacun porte un surnom qui lui vient de ses parents et de son propre fond, d'après ses goûts particuliers ou ses occupations. Mais pour nous, la grande affaire et le grand nom, c'était d'être chrétien et d'en porter le nom. Voilà. Donc, et c'est comme ça que l'un et l'autre vont s'orienter vers la vie monastique et sur les propriétés familiales vont créer des monastères.
En Grèce, ou pas ?
Comment ? En Asie mineure. Oui, oui. Donc quand ils vont revenir dans leur après leurs études de philosophie. Et alors, on sent bien que l'admiration, quand même, de Grégoire pour Basile. Mais c'est lui, on peut dire que Grégoire de Basile de Césarée, il a un peu l'âme d'un Athanase, en fait. Et c'est lui qui va enfin, qui va forcer ses amis à devenir évêques pour avoir la majorité dans les synodes. En fait, vous voyez, c'était l'idée. Et, par exemple, Grégoire de Nyse ne voulait pas être évêque, alors il l'a fait évêque quand même. Et son petit frère Pierre ne voulait pas non plus être évêque, il a quand même été évêque. Et en fait, après, à chaque fois... Quand en plus, comme ils étaient intelligents, ils gagnaient d'autres à leur doctrine. Et puis surtout, quand il y avait un synode, ça faisait une fournée d'évêques orthodoxes face aux évêques hétérodoxes. Donc c'était l'idée. Voilà.